Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'été indien et c'est un plaisir de vous retrouver en ce samedi matin à la douceur estivale. Chez vous, sur la route ou au travail, on vous accompagne de 9h15 à 10h sur RTL et on vous aide à vous simplifier la vie. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui ? C'est bon pour la planète, mais malgré notre bonne volonté, on s'y perd un peu parfois. Alors comment trier correctement nos déchets ? Quels emballages peut-on vraiment mettre dans la poubelle recyclable ? Et les masques jetables d'ailleurs, on en fait quoi ? Jean Ornain, directeur général de Citeo, une entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers, nous aide à y voir un peu plus clair. Le prix des parfums est parfois exorbitant. Est-ce toujours lié à leur qualité ? Eh bien pas si sûr. Un bon parfum est-il forcément cher ? Vous allez être surpris en écoutant l'expert parfum Lionel Paillès. Manger des pommes, c'est le fruit le plus consommé en France. Alors comment la cuisiner ? Réponse avec les recettes gourmandes et faciles de la cuisinière Sonia Esgulian. Parfois, on reste planté justement devant les bacs de recyclage et on ne sait plus. Jean Ornain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes directeur général de Citeo. Je le disais, c'est une entreprise qui agit pour donner une nouvelle vie aux emballages ménagers et aux papiers. Alors, le tri fait désormais pleinement partie du quotidien des Français. On peut dire que tout le monde n'a pas encore pris ce fameux pli.
Alors, il est rentré dans les foyers français d'une façon générale, puisqu'aujourd'hui, on va dire qu'en l'espace d'une génération, on arrive à 89-90% des Français qui déclarent trier. Après, quand on regarde de plus près, on voit que ceux qui le font systématiquement, c'est-à-dire tous les emballages, tous les jours, ou à quelque endroit qu'ils se trouvent, en fait, là, on est plutôt un Français sur deux. Alors, ça progresse, hein, puisqu'il y a 4-5 ans, on était largement en dessous des 50% de trieurs systématiques. Mais on a des progrès à faire dans les années qui viennent.
Alors justement, il y a des doutes hein, qui ont été émis sur le réel recyclage des déchets. Il y a certaines poubelles de carton et de papier qui se retrouvent mélangées avec les déchets classiques. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de trier ? Est-ce qu'il faut encore marteler ce message ?
Oui, oui et oui. En fait,
c'est
vrai
clair.
Que... c'est vrai que quand on met un emballage ou un papier dans un bac de tri, comme c'est mélangé, on peut avoir des doutes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tellement confiance. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand vous mettez un emballage ou un papier dans un bac de tri, il va être recyclé ou valorisé énergétiquement. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va sortir du bac de tri, il va aller dans ce qu'on appelle un centre de tri. Il y en a 170 en France qui vont séparer les matières. Donc le métal, le plastique, le carton, le papier. Et donc ensuite, ça va produire ce qu'on appelle des balles. Donc des balles de plastique, des balles de carton, des balles d'acier, des balles d'aluminium. Et ces balles-là vont ensuite aller chez des recycleurs pour finalement refabriquer de nouveaux produits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une tonne de canettes d'aluminium recyclées, on économise 2 tonnes de bauxite, qui est le minerai qu'on utilise pour faire l'aluminium. Quand on trie 1 tonne de plastique, on économise 650 kilos de pétrole brut. Quand on trie 1 million de tonnes de papier, on économise 20 milliards de litres d'eau économisés. Donc en fait, oui, ça sert à quelque chose. Oui, il faut continuer à le faire, même si parfois on peut avoir des doutes ou des interrogations.
Alors on va revenir justement sur ces doutes qui nous étreignent parfois devant nos bacs de recyclage. Certains considèrent aussi que si les centres de tri existent, c'est que le tri va être fait quoi qu'il arrive. Est-ce que effectivement, on a un rôle, nous, à jouer en tant que consommateurs en faisant ce premier geste ? Certains vont dire, de toute façon, c'est pas la peine puisque c'est retrié par ailleurs.
C'est indispensable de mettre tous ces papiers et ces emballages dans le bac de tri. Après, la complexité, c'est qu'il n'est pas toujours jaune, il peut être de différentes couleurs en fonction des localités françaises. Donc, il n'y a pas toujours la même consigne, c'est-à-dire la même instruction. Donc, c'est de la complexité vient parfois de là. On est aujourd'hui en train de simplifier en France le tri progressivement en disant à tout le monde, vous allez pouvoir mettre tous vos emballages, non seulement vos bouteilles, vos flacons, mais aussi vos pots de yaourt, vos barquettes de jambon, vos films dans le bac de tri pour aller au recyclage de façon à simplifier les choses. Mais le geste là, ce petit geste de mettre des emballages et des papiers dans le bac de tri est absolument indispensable si on veut économiser des ressources, protéger la planète, et avoir un impact carbone qui soit limité dans notre consommation quotidienne.
Alors parfois on a peur de se planter effectivement parce qu'on se dit qu'une erreur peut finalement, je dirais, polluer l'ensemble du tri et d'une poubelle. Concrètement, qu'est-ce qui est recyclable en plus du papier et du carton? Je pense, vous savez, à nos couvercles de bocaux, aux boîtes de conserve, aux bouchons de bouteilles de vin. Tiens, moi je ne sais même pas quoi en faire, donc j'ai un sac chez moi qui est rempli de bouchons de bouteilles de vin. Ça ne veut pas dire que je bois beaucoup, mais ça m'arrive quand même. les pots de yaourt dont on nous a dit à une période il faut qu'ils soient nettoyés, donc moi je les nettoyais, maintenant on dit non. Enfin, on est un peu paumé là-dedans. Alors, donnez-nous un cours, Jean-Renin, s'il vous plaît.
Vous pouvez mettre dans vos bacs de tri, vous l'avez dit, tous vos papiers, tous vos cartons d'emballage, intégralement, que ce soit ceux qui entourent les pots de yaourt ou les cartons d'emballage. Vous pouvez mettre tout ce qui est en acier, donc c'est vos boîtes de conserve, vos boîtes de sardines, vos couvercles de bocaux que vous venez de citer. Vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle et de laver tout ça, ils peuvent rentrer salis dans le bac de tri, ils seront nettoyés plus tard. Vous pouvez y mettre vos pots de yaourt. Dans certains cas, alors c'est là où effectivement on est en train de simplifier le geste de tri, c'est-à-dire pour la moitié des Français c'est le cas et pour l'autre moitié c'est pas encore le cas, mais d'ici 2022 ce sera le cas. Le pot de yaourt, c'est du polystyrène, on arrive à le recycler. Vous pouvez mettre bien évidemment vos aérosols si vous avez, que ce soit de la mousse à raser ou du parfum en aérosol, vous pouvez les mettre. Ce sont des emballages, ils seront recyclés. C'est de l'aluminium et l'aluminium c'est très important de recycler. En revanche sur les bouteilles de vin, tout ce qui concerne le bouchon. En fait, ne le mettez pas dans le bac de tri. Vous avez là plusieurs solutions. Alors, soit vous le mettez dans le bac d'ordures ménagères, mais sinon, mieux, la Fédération française du Liège, elle a mis en place des points de collecte avec de nombreux partenaires, donc les gens qui vendent, en gros, du vin. Vous pouvez trouver des points de collecte. Il y a un site qui s'appelle planeteliège.com qui vous permet de savoir où est-ce que vous pourrez rapporter vos bouchons de Liège. Mais sinon, vous voyez que... Et si vous avez un doute, il y a aussi une application qui s'appelle guidedutri.com que vous pouvez retrouver et un site qui s'appelle trier ses données, toutattaché.fr, qui peuvent vous donner des indications. Mais globalement, on va dire que tous vos emballages et tous vos papiers, dans la grande majorité des cas, vont dans le bac de tri.
D'accord, et dans le même bac, on se comprend bien. Hein. C'est vrai que moi, visuellement, je me dis toujours qu'il faut qu'il y ait le papier et le carton dans un bac, et puis effectivement, je vais mettre les boîtes de conserve ou les pots, les bocaux dans un autre. On est tout dans le même bac, on n'hésite pas, on peut y aller.
Non, pas tout à fait, pardonnez-moi. Ça le verre.
Je disais, je voulais parler des couvercles de bocaux. Ah non, le verre, on est bien d'accord qu'on le met dans le même bac.
Voilà, il y a des bacs spéciaux pour le verre. Et puis après, il est vrai que ça dépend aussi un petit peu des collectivités locales. Donc, vous pouvez avoir des bacs de collecte qui ont des systèmes un petit peu différents en France en fonction des régions parce que les collectivités sont libres de choisir un petit peu leur système. Tout le monde est en train de travailler à l'harmonisation nationale. Je pense qu'on va y arriver dans quelques années.
Eh bien voilà, un optimiste. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, Jean-Renin. J'ai encore des questions à vous poser. On me parle de bidons de lessive qui seraient recyclables et pas d'autres. On se demande s'il faut mettre les sacs. Vous savez, nos sacs aussi en plastique, est-ce qu'on peut les mettre dans ce bac? Et puis alors, la fameuse question que tout le monde se pose depuis quelques mois, qu'est-ce que je fais de mon masque jetable? Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Alors, on se pose tous la question, pourquoi est-ce qu'un parfum coûte-t-il si cher? Est-ce que le prix, c'est quelque part aussi la qualité? On va en parler avec Lionel Paillès dans un instant. Manger des pommes, Sonia Esguillon va nous donner des super recettes justement pour profiter de ce fruit star de la saison. Mais pour l'heure, on recycle et on recycle bien grâce à Jean-Renin.
Dites-moi comment ça marche.
Ah oui, Jean-Renin, dites-nous comment ça marche. Vous nous apprenez plein de trucs ce matin, c'est super intéressant. Quand je vais recycler mes emballages, et on a bien compris qu'on pouvait y mettre beaucoup de choses, sauf les bouchons de Liège, évidemment, le verre, on en a parlé. Est-ce que je peux emmener mes déchets dans un sac plastique et laisser le sac plastique dans le bac?
Ce qu'il faut, c'est que vous ne laissiez pas vos emballages dans le sac plastique et le sac plastique dans le bac de tri. Donc, il faut ouvrir parce que sinon, donc en fait, vous mettez vos emballages directement, y compris le sac plastique, dans le bac de tri.
Et pourquoi je ne peux pas laisser dans le sac?
Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça va aller dans un centre de tri qui va essayer de séparer. Donc, en fait, c'est au lieu que ce soit le sac qui se retrouve dans le centre de tri, c'est chaque emballage. Et en fait, c'est chaque emballage qui doit être séparé parce que dans le centre de tri, il y a du tri mécanique, du tri optique. C'est devenu assez sophistiqué. Il y a de l'intelligence artificielle. On arrive vraiment à séparer beaucoup de choses. Mais il faut qu'ils soient séparés dans le bac de tri. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est imbriquer vos emballages, si vous pouvez éviter, c'est-à-dire mettre le pot de yaourt dans la boîte de conserve, parce qu'en fait, fait, dans le centre de tri, on ne va pas pouvoir le détecter, le pot de yaourt.
Ok, donc on met tout séparément, quoi. Hein, voilà, hein, chaque objet a son recyclage propre. Ouais. Les bidons de lessive, il y en a qui sont recyclables et d'autres pas. Alors comment je le sais, moi ?
C'est vrai que sur le plan du plastique, c'est un petit peu plus compliqué, à savoir que l'acier, l'aluminium, le papier, le carton et le verre, en fait, on ne se pose pas de questions. Et en fait, sur le plastique, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un plastique, mais il y a plusieurs types de plastiques et tous ne se recyclent pas exactement de la même façon. Il y a 1 million de tonnes d'emballages ménagers en plastique qui sont chaque année vendus, qui emballent vos produits. En fait, là-dessus, il y a 50% qui sont parfaitement recyclables. C'est vos bouteilles d'eau ou de soda, vos flacons de shampoing, vos bidons de lessive, tout ça, ça fonctionne parfaitement. Après, vous avez un quart qui nécessite là de créer ce qu'on appelle des filières de recyclage. Ça, c'est en cours. Donc ça, c'est les films, des packs d'eau, c'est des barquettes de jambon. On a parlé tout à l'heure du pot de yaourt. Donc ça, c'est en cours de développement. Donc on est en train d'y arriver. Et il reste encore une partie qui est un quart, qui nécessite encore ce qu'on appelle des solutions d'éco-conception sur lesquelles travaillent les entreprises. Hein. C'est-à-dire les entreprises aujourd'hui sont celles qui financent le recyclage en France. Et en fait, c'est un travail pour que si on prend un paquet de chips, par exemple, il a un peu d'aluminium et un peu de plastique dans sa composition, donc c'est plus difficilement recyclable. Donc là, on a encore un travail dans les prochaines années pour pouvoir rendre tout ça 100% recyclable. Nous, notre objectif, c'est 100% solution, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un emballage et plus un papier qui n'ait pas de solution, à la fois de réemploi ou de recyclage. Donc il reste du travail. Néanmoins, les choses avancent. Donc, c'est vrai que sur les plastiques, c'est un petit peu plus compliqué, mais il ne faut pas perdre confiance.
On n'était pas prêt à ce que l'on est en train de vivre. On ne s'était pas posé la question du recyclage du masque jetable. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, on a nous lancé une campagne d'ailleurs pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup cette question. Il faut informer les Français des bons gestes. En fait, le masque jetable ne se met pas dans un bac de tri. Donc, c'est pas un emballage ou un papier qui va se trier et se recycler. Même si aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont menées, des startups qui travaillent à des solutions de recyclage des masques jetables. Enfin, quand ils sont jetables, hein, parce que vous avez aussi des masques réemployables. Et après, donc, ce qu'il faut faire du masque, il faut le mettre en fait dans un sac en plastique dédié, bien le fermer, et puis jeter ça dans votre bac d'ordures ménagère, c'est-à-dire dans votre bac d'ordures classique, mais surtout pas le mettre dans le bac de tri des emballages et des papiers.
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Jean Renin, je rappelle que vous êtes directeur général de Citeo et je vous remercie de nous avoir éclairé de la sorte en ce samedi matin.
Merci à vous.
Et dites-moi, vous vous parfumez, j'imagine, et vous mangez des pommes ?
Je mange des pommes et je me parfume occasionnellement.
Ah bah alors restez avec nous, vous allez apprendre plein de choses dans un instant sur RTL. Merci beaucoup Jean.
Avec plaisir, merci. Au revoir.
Moi je l'ai tant aimé.
Oh là là, on a tous emballé sur cette chanson d'Art Mango. Bonjour Lionel Paillès.
Bonjour.
Vous avez emballé, vous, sur les parfums de sa vie ?
Non, mais j'adore la chanson, en tout cas.
J'adore cette chanson. Vous adorez le parfum dont vous êtes expert. Vous êtes également auteur de différents ouvrages. On va parler avec vous des parfums, parce qu'on se pose tous la question, hein, est-ce que le prix d'un parfum, quelque part, nous donne des indications sur sa qualité ? Mais auparavant, quel est le top 3 des parfums les plus vendus en France pour les hommes et pour les femmes ?
Alors, il y a un classement qui est assez stable chez les femmes. Donc, le classement féminin, c'est... Le parfum le plus vendu en France aujourd'hui, c'est La Vie est Belle de Lancôme. Ça fait quelques années que ça dure. Il est sorti en 2012 et c'est quasiment passé tout de suite en tête des ventes. J'adore de Dior en deux. C'est pareil, c'est assez stable. Et La Petite Robe Noire de Guerlain. Donc chez les femmes, ça bouge pas du tout depuis 5-6 ans.
Le Trésor de Lancôme a été détrôné alors.
Trésor et puis les grands Chanel. Alors il y a Coco Mademoiselle qui est remonté dans le classement, qui doit être 4e ou 5e aujourd'hui. Mais par exemple, le numéro 5 qui a été longtemps en tête des ventes a plongé dans le classement.
Et chez les hommes, alors ?
Et chez les hommes, alors ça, c'est un classement qui bouge. Aujourd'hui, c'est Bleu de Chanel, qui est en tête des ventes en France. Terre d'Hermès, qui est le second. Celui qui a bougé, c'est Invictus de Paco Rabanne, qui a été pendant 5 ans en tête du classement en France et là, qui a dégringolé de 3 places.
Très bien, merci pour ce petit point sur le podium des parfums en France. Et dites-moi, le parfum, c'est un produit de luxe. Quand on écoute là, toutes les marques que vous nous citez, sont des parfums extrêmement chers.
Ben, en fait, c'est assez curieux parce que la parfumerie, historiquement, elle est venue, elle s'est développée à côté de la mode et c'était un moyen d'offrir aux clientes un peu du rêve de la mode, mais à un prix beaucoup plus accessible qu'une robe. Mais aujourd'hui, quand on regarde les prix en magasin, c'est devenu un vrai produit de luxe. Oui.
C'est la même chose pour les parfums féminins et masculins, sont les mêmes prix, globalement?
Alors là, il y a une égalité parfaite, c'est exactement les mêmes prix qui sont pratiqués, oui. Parfois d'ailleurs, on classe de moins en moins les parfums en masculin-féminin en boutique. Il y a un immense rayon qui ne s'appelle pas mixte, mais qui de fait est mixte. Et puis effectivement, il y a encore quand même des corners féminin-masculin, mais les prix sont les mêmes.
Alors, on a remarqué que certains parfums classiques, ils sont aux alentours de 130 euros les 100 millilitres. Ça nous paraît dingue quand on y pense. On va se retrouver dans un instant. Lionel Payès, vous allez nous expliquer le pourquoi du comment. Et puis, Sonia Esgulian, elle est à notre écoute aussi. Et elle, c'est le parfum de la pomme qu'elle va nous diffuser sur l'antenne d'RTL, car elle aura plein de recettes à nous donner. Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Si nous voilà bien, on se retrouve tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, Sonia Esgulian va nous rejoindre. Vous savez, elle est cuisinière. Sonia, elle a toujours des bonnes recettes à nous donner. Et aujourd'hui, elle s'intéresse à la pomme. Mais pour l'heure, on parle parfum.
Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour me souvenir d'un automne à Paris.
Comme c'est joli, Christina Marocco, sur l'antenne d'RTL. Lionel Payès, vous êtes donc notre invité. Vous êtes auteur de différents ouvrages. Vous êtes expert parfum. Je pourrais citer notamment La fabuleuse histoire de l'eau de Cologne, un ouvrage collectif paru chez Né Éditions. Et puis, il y en a un qui va sortir bientôt chez Actes Sud. C'est le lexique des amateurs épris d'odeur et de parfum, coécrit avec le parfumeur Jean-Claude Héléna. Alors justement, les parfums, on en parle. On le disait il y a un instant, c'est quand même très cher, que ce soit les parfums masculin ou féminin, 130 euros les 100 millilitres, on ne marche pas un peu sur la tête?
Si, c'est vrai que ça paraît totalement ahurissant, surtout que ce n'est pas toujours justifié. Alors, on va dire pour les marques de vrai luxe, on va les qualifier comme ça, que moi je qualifie de vrai luxe, que sont Chanel, Dior ou Hermès, qui utilisent beaucoup de matières premières naturelles dont les prix varient énormément, parce qu'il y a parfois, des raisons climatiques, politiques, des variations du prix. Pour ces maisons-là, je dirais que le prix est en grande partie justifié. Pour tout un tas d'autres maisons qui se positionnent sur le luxe, mais qui ne sont pas des marques de luxe parce qu'elles n'utilisent pas forcément ces matières premières-là, là, le prix est absolument scandaleux.
Alors, quelles sont ces marques? On va les citer quand même pour faire la différence entre des marques dites de luxe et d'autres pas.
Oui, moi, je pense qu'il faut aller vers les marques historiques, mais pas toutes. Je dirais que vraiment celles qui continuent à mettre beaucoup de prix dans le concentré, parce qu'en fait, le prix du parfum, bizarrement, c'est 10% du prix du parfum que vous payez en boutique, c'est le concentré de parfum, donc c'est ce que ça sent. Tout le reste, c'est du marketing, le contrat avec une égérie, la distribution, le flacon.
Donc, c'est ça, c'est-à-dire que quand j'achète J'adore de Dior, je paye Charlize Theron, quoi.
Oui, exactement. C'est exactement
ça. Donc, quand même problématique, parce que c'est ce qui justifie le prix ahurissant de certains parfums.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les marques se défendent d'avoir augmenté fortement le prix du parfum, aujourd'hui, il faut débourser en moyenne 63 euros pour se payer un parfum. C'était en 2006 ou 2007, c'était 46 ou 47 euros. Vous avez pris 20 euros en 15 ans.
Pour des raisons marketing.
Pour des raisons totalement marketing, absolument.
Lionel Payès, quelles sont les marques qui sont nobles, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qui font vraiment bien leur travail, et celles dont on se dit, bon, à un moment donné, ça va, quoi, on est en train d'exagérer un peu. On pousse un peu le bouchon loin, Martine.
Moi, je dirais que les vraies marques de luxe, en fait, elles sont repérables à un critère qui est assez parlant pour moi. Une marque de parfum de luxe, c'est une marque, on appelle ça, c'est pas très joli, mais on appelle ça discontinuée dans le jargon parfumeur. C'est une marque qui ne discontinue jamais ses parfums anciens. C'est-à-dire que si vous portez un parfum qui a un siècle de chez Guerlain, et si Guerlain fait disparaître ce parfum pour des raisons évidemment commerciales, pour moi, c'est plus une marque de luxe. Donc en fait, repérez, si vous ne trouvez plus votre parfum dans une marque, c'est que cette marque est déjà sur la mauvaise pente. Donc pour moi, les vraies marques de luxe, ça reste essentiellement Chanel, Hermès. Moi, si on devait en garder deux, je dirais ça. Dior, Guerlain étant des marques quand même assez luxueuses, mais qui parfois transforment leurs parfums ou les discontinuent. Et puis, je dirais que après, il y a pas mal de marques de luxe, type, je sais pas, Givenchy, Armani, qui sont, à mon sens, qui ne sont plus des marques de luxe. Parce que pour ces raisons-là, c'est qu'elles mettent moins d'argent dans le concentré, les parfums disparaissent, les parfums sont transformés, changent de nom. Donc voilà, l'idée, c'est de perdre la consommatrice. Et pour moi, c'est plus digne d'une maison de luxe.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut trouver aussi des super parfums dans des maisons dites pas de luxe?
Ah oui, bien sûr. En fait, il faut, y a une réalité, c'est qu'est-ce qui compte pour nous? Est-ce que c'est l'odeur ou est-ce que c'est autre chose? Si on se dit, je suis un amateur de parfum et finalement, ce qui me plaît, c'est de sentir bon, dans ce cas-là, là, vous allez vite faire le tri. C'est-à-dire que vous allez aller vers des marques qui ne vous font pas payer le prix du flacon parce que c'est un flacon qui est acheté en série. Donc, ce n'est pas un très beau flacon, même si parfois, on trouve des flacons minimalistes et assez jolis. Donc, il faut aller vers ces marques-là. Et moi, je dirais d'emblée, si vous voulez faire des bonnes affaires, vous allez chez Yves Rocher, qui mettent du prix dans le concentré, mais qui font pas de pub et qui n'ont pas d'égérie. Donc finalement, le prix, il est dans le flacon. Donc moi, j'irai chez Yves Rocher, chez Roger Gallet, dans des marques comme ça, où vous avez des très beaux parfums. Vous allez même, alors là, vraiment, si vous osez, et moi, je vous conseille d'oser aller dans les grandes surfaces pour acheter parfois du parfum.
Ah oui.
Moi, il y a une marque que je conseille toujours, qui est une marque d'eau de Cologne qui s'appelle Bien-être, qu'on trouve par exemple chez Monoprix. Bien-être, c'est le meilleur rapport qualité-prix du monde en parfumerie. C'est 5,75 € 250 ml. Et c'est très beau, vraiment très beau. Donc 5,75 € et 250 ml, je pense que c'est imbattable. C'est vrai que le flacon est moins beau, la marque est pas connue, pas connue du grand public. C'est pas des noms très jolis et il y a pas d'égérie. Mais voilà.
Non, mais c'est super intéressant. Voilà, le beau parfum n'est pas super loin en fait,
non,
ni en termes de prix, on l'aura bien compris, ni d'un point de vue géographique. Et ça, c'est complètement dingue et c'est super intéressant. Juste pour nos auditeurs, la différence entre une eau de parfum et une eau de toilette.
Alors là aussi, on a essayé de perdre la consommatrice. Théoriquement et historiquement, c'était un problème de concentration. C'est-à-dire qu'une eau de toilette, c'est concentré à 8 ou 10%. Quand je dis concentré, c'est 8% de concentré de parfum, de ce qui sent, et 82% d'alcool. C'est ça la concentration. Donc une eau de toilette, c'est 8-10, et une eau de parfum, c'est 15-20. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a des eaux de toilette très concentrées. En fait, on vous vend des choses qui sont à peu près concentrées de façon équivalente, sauf que certaines marques vous font payer 15 à 20% de plus quand vous achetez une eau de parfum, même si elle est autant concentrée qu'une eau de toilette.
Donc vous nous conseillez l'eau de toilette directement, dans le doute?
Donc moi, je conseille l'eau de toilette, ou alors de tester, parce qu'il y a des marques qui ne se gênent pas pour vraiment augmenter sensiblement le prix, sans finalement changer la concentration. Donc finalement, l'eau de toilette, elle est souvent très bien. Et dans les marques de luxe, l'eau de parfum, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre création. C'est que ce n'est plus tout à fait le même parfum. Donc c'est intéressant, c'est une réinterprétation. Mais chez les, on va dire, Hermès Chanel.
Bah, c'était super intéressant, Lionel Paillès. Vraiment, merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne en ce samedi matin. Vous sentez l'odeur de pomme, là? Elle est venue jusqu'à vous ou pas?
Ah oui, complètement.
C'est Sonia Esguignan, elle est au fourneau, elle va nous donner plein de recettes dans un instant sur RTL. Lionel Paillès, je vous embrasse, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc je rappelle votre prochain livre à sortir chez Actes Sud, Lexique des amateurs et prix d'odeurs et de parfums. Merci beaucoup Lionel, à bientôt
merci
sur
à
RTL.
Vous. Bon week-end.
Au revoir.
Au revoir.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dites donc, on en apprend des choses hein, ce matin. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour Nous Voilà Bien. On vous a donné des super conseils de recyclage. On vous a donné des super conseils sur le parfum. Et là, on va avoir des super recettes avec la pomme.
Croque la pomme à belles dents. Je t'en supplie, attends, attends. Eve, prends bien garde au serpent.
Alors là, c'est Collector, Johnny et Sylvie qui chantent Croque la pomme ce matin sur RTL. Et on voit poindre sa pomme justement à Sonia Esguignan sur cette antenne. Bonjour Sonia.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous la connaissiez cette chanson?
Non, Johnny pas du Sylvie tout. Pas du
tout. Eh bien moi non plus. Et c'est ça qui est génial dans cette émission, c'est qu'on apprend plein de trucs. Merci d'être avec nous Sonia Esguignan. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteur, journaliste, vous nous proposez la cuisine au fil des saisons, automne-hiver, c'est pour bientôt, aux éditions Lui Cuisinière. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse à ce fruit quand même star. Alors, une pomme par jour éloigne le médecin selon le dicton. C'est quoi les bienfaits de la pomme pour notre santé?
Le concentré absolu de vitamine C, ça c'est formidable pour plein de choses, pour la peau, pour l'énergie, etc. Puis c'est un super antioxydant. Mais bon, un petit bémol quand même, la pomme, ça peut être très sucré. Donc c'est vraiment une pomme, voire deux selon la taille de la pomme, et on n'en consomme pas trop, parce que ça reste quand même sucré.
Et c'est plus concentré en vitamine C que, je sais pas, une orange ou un kiwi?
C'est extrêmement concentré en vitamine C et c'est très très bon, à condition de, comme beaucoup de choses, de le faire avec modération.
Alors vous savez, je disais que c'était la star du moment, mais il y a quand même un truc qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'on peut manger de la pomme donc de janvier à décembre, hein, grosso modo toute l'année.
Mais oui, je pense que c'est dommage, c'est comme pour tout, hein, on peut trouver maintenant de tout tout le temps, oui. Mais ce qui est top, c'est, on va en parler un tout petit peu après, c'est de la consommer en saison. Pourquoi? Bah, parce que d'abord, si on va chez un petit producteur au marché, dans une AMAP ou autre, souvent les pommes n'ont pas vu le réfrigérateur, donc ça c'est top quand elles n'ont pas vu les chambres froides, etc. C'est de les garder hors du réfrigérateur. On peut les garder largement 8-10 jours, sauf si la maison est très très chauffée. En ce moment, on n'a pas de problème. Il fait très bon, donc les pommes commencent à arriver. On peut les garder quelques jours hors du réfrigérateur. On va voir, comme les tomates par exemple, qu'elles ont meilleur goût si on ne les met pas dans le réfrigérateur. Parce qu'en fait, les pommes, on va les conserver, bah, si possible, si on a un petit endroit au frais, à l'abri de la lumière, ou par exemple une cave, on peut les laisser comme autrefois dans les campagnes, ouais. Comme ça, plusieurs semaines, sans aucun problème. Après, si on n'a pas, eh ben, on le met dans le bac à légumes du réfrigérateur, et ça marche aussi. Si l'appartement est très chauffé, bon, bah, c'est sûr que là, on garde un peu moins bien les aliments.
Mais on est bien d'accord qu'on est en pleine saison, là?
Alors là, c'est formidable, c'est le début de la saison, et il y a vraiment, allons au marché et découvrons toutes les variétés, parce que des pommes, alors, il y en a quand même beaucoup, beaucoup.
Mais alors justement, comment je m'y retrouve parmi toutes les variétés, et puis est-ce que certaines ont une utilité spécifique en termes de cuisine ?
Mais oui, en fait, ce qui est un petit peu difficile, c'est de dire quelle est sa pomme préférée. En fait, il faut goûter au départ un petit peu les pommes comme beaucoup d'autres aliments. On goûte et on se fait un peu une idée. En gros, il y a aussi des pommes qu'on va utiliser plutôt pour la compote ou la tatin parce qu'elles ont une chair un petit peu comme les pommes de terre qui fonctionnent bien avec ce type de cuisine. Et puis aussi, elles ont un goût. Elles sont pour certaines un petit peu acidulées, pour d'autres sucrées. Donc par exemple, moi j'aime bien les pommes un peu rustiques comme la pomme Bellechard. Alors en fait, on la reconnaît bien parce qu'elle est un peu jaune passé et elle fait vraiment rustique, quoi. On voit bien que c'est une pomme de terroir. Et bien celle-ci, c'est presque évident, elle va bien tenir avec des cuissons très longues au four. Alors on peut faire une pomme au four, mais on peut aussi par exemple la mettre avec le poulet du dimanche, et on va mettre par exemple des pommes dans le jus de viande. Alors pas au tout début de la cuisson, à peu près 25 minutes avant la fin de la cuisson, on va mettre les pommes, et là franchement ça change complètement. D'abord ça va parfumer le jus, et puis on va changer de garniture avec le poulet du dimanche. Moi je mets souvent pommes et céleri, ça fonctionne très très bien. Super ensemble bien. Et ça c'est une idée toute simple qui change tout.
Parfois on voit des pommes qui ont un aspect rustique, et moi je me dis qu'on peut faire plus de trucs avec des pommes à l'aspect rustique, justement celles que je voyais dans les champs chez mes grands-parents, que les pommes qui
paraissent un petit peu... d'accord avec vous.
Urbaine. J'ai l'impression qu'on peut faire plein de trucs avec des pommes rustiques.
Alors après, il y a plein de pommes dites modernes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas toutes les citer, mais
sont,
y a mais qui sont plus des pommes qui ont été travaillées pour être plus uniformes. Alors elles sont à la fois.
Mais la Juliette, tous ces trucs-là, non ?
C'est super bien. Elles sont très sympas, ces pommes. Mais elles ont quand même moins de caractère. Donc du coup, on va. Effectivement, elles peuvent aussi bien convenir à la dégustation que dans une petite salade, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'avoir plein de terroirs différents. Donc autant goûter des pommes avec beaucoup de caractère. Moi, il y a une autre pomme que j'aime beaucoup, c'est la Boscop, en fait, parce que pareil, c'est une pomme rustique, mais qui, alors elle, pour le coup, tient vraiment bien à la cuisson. Et par exemple, on peut faire des pommes poêlées, caramélisées, un dessert extrêmement simple. Hein. On va couper les pommes en quartiers ou en 8 et on les fait revenir tout doucement. Alors moi, dans la poêle, je mets en général pas de beurre, parce que, bon, sauf pour certaines recettes comme tatin ou autre, mais sinon, je mets un tout petit peu de miel et du jus de citron. Et la pomme a tellement de son sucre naturel, va permettre une jolie caramélisation. Et ça, on peut par exemple servir un dessert très simple avec du fromage blanc, en faisant un cheesecake ou une recette extrêmement simple. Et c'est la pomme avec son caractère et son goût très caramélisé qui va complètement changer le plat.
Et dites-moi, on peut les congeler les pommes ou pas ?
Je me pose la problème. Question, vous écoutez. Alors,
ah bon ?
Brutes comme ça, entières, non, parce qu'il faut un petit peu de manipulation. Alors moi, ce que je conseille, alors on les épluche, on les coupe par exemple soit en quartier ou en petits cubes. Là, ça permettra de faire, par exemple, différentes préparations. Si on ne travaille pas très vite, par exemple, qu'on prend un petit peu de temps pour mettre tout ça en paquet, on va prendre soin de les citronner parce que elles vont un tout petit peu noircir, enfin brunir, pas vraiment noircir, mais prendre une petite couleur un peu plus sombre si on met un petit peu de temps à les mettre en paquet et puis ensuite les mettre au congélateur. Et alors, on peut surtout aussi les mettre en compote et on les met au congélateur. Comme ça, on en a tout le temps quand on a, par exemple, acheté un beau bocageau de pommes, ouais, si on est parti à la campagne, eh bien, on peut tout à fait congeler une partie de quartier et faire deux, trois petites préparations comme des compotes et ça pose aucun problème.
C'est marrant parce que quand je vous écoute, je me dis que ça doit être le fruit avec lequel on peut faire le plus de trucs, en fait, de recettes,
ah bah,
qui peut se présenter sous toutes les formes.
Salé, sucré, je pense que la pomme, c'est vraiment... moi, j'utilise même la peau, vous savez bien que je ne gaspille rien. Et en fait, avec les pelures de pommes, alors il y a beaucoup de gens qui font des petits beignets, c'est très bon, hein. On trempe cette pelure de pomme dans de la pâte à beignets et puis on peut les faire frire. Ça, c'est une recette assez connue. Moi, il y a une recette que j'aime beaucoup, c'est que je prends ces pelures de pommes, je les fais sécher, soit si j'ai le temps à l'air libre, soit je les mets un petit peu au four à 80 degrés pendant une bonne heure. Ensuite, je fais dans des petites aumônières, vous savez, on peut acheter aujourd'hui comme les petits sachets à thé. On met dans des petites aumônières les pelures de pommes avec, si on aime, une étoile de badiane, un petit peu des graines de fenouil. Et on va mettre tout ça dans une boîte et au fur et à mesure de l'hiver, on va consommer ces infusions de pommes aux épices. C'est délicieux, c'est tout simple, ça nous amuse les dimanches pluvieux. On peut faire ces petites aumônières pour, et on peut surtout les offrir en cadeau et c'est très joli.
Vous viendrez dans notre studio avec les petites aumônières la prochaine fois, je vais les essayer.
Oui.
Ah, trop sympa.
Et la surprise, c'est que je vous en ai envoyé par la poste, mais la poste n'est pas très opérationnelle en ce moment.
Oh,
et voilà, vous,
vous
ne les avez pas en ce moment.
Ça va bientôt arriver. Merci beaucoup, Sonia Esguillian, d'avoir été avec nous ce matin. Alors, je rappelle vos ouvrages, parce que quand vous ne vous intéressez pas à la pomme, vous vous intéressez à l'œuf, recettes et variétés gourmandes aux éditions Les Cuisinières, et puis cette fameuse cuisine au fil des saisons automne-hiver.
Et si je peux ajouter juste une petite
éditeur.
Chose.
Oui.
Je cuisine la pomme le dernier week-end de novembre en Normandie, à Port-en-Bessin, dans une maison d'hôte qui s'appelle Les Filles du bord de mer. Donc je vais faire une super recette de cake tatin aux pommes normandes, évidemment. Donc venez voir ce cours et venez déguster ce dessert.
Et puis on connaît vos actus justement sur votre page Instagram, Sonia Esguillian. Vous savez ce qu'on se fait à la fin de cette émission?
Oui,
on n'a pas le droit de se faire
des bisous.
Bah ouais, on n'a pas trop le droit en ce moment et tout, mais on peut se faire des bisous virtuels pour patienter jusqu'au prochain numéro de Nous Voilà Bien. Je vous embrasse, Sonia. À bientôt.
Moi aussi,
sur RTL.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, et puis d'ici samedi, les replays de l'émission sont à votre disposition sur RTL.fr et les recettes sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, 9h15, dans Nous Voilà Bien. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.